les aidants. Aidez les aidants.
Radio A.info.
Aidez les aidants. C'est tous les jours sur Radio A.info. Radio A.info.
Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Ensemble, effectivement, sur radioa.info, www.radioa.info, sur le site internet, ensemble réinventons la solidarité au sens large du terme, partageons nos expériences, vos expériences. L'objectif de notre radio est de vous aider à aller mieux, de vous aider, vous qui êtes touché par la maladie, que vous soyez malade, famille ou accompagnant, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez d'ailleurs été très très nombreux hier à vous connecter sur le site, à nous poser des questions, à nous envoyer également vos petites annonces. Donc cette émission est pour vous. N'hésitez pas à vous connecter de nouveau, www.radioa.info, ou à nous appeler au 0811 341 341. Une communication pour le prix d'un appel local depuis un poste fixe. On vous rappellera et vous pourrez intervenir en direct sur notre antenne si vous le souhaitez. Posez vos questions à nos spécialistes, à nos invités ou à d'autres internautes dans la même situation. Le thème du jour aujourd'hui, les familles d'accueil. En France, plus de 10 000 accueillants familiaux agréés prennent en charge des personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes, adultes handicapés, personnes âgées, malades, convalescents, mais ce n'est pas assez parce que cette solution, vous allez l'entendre avec nos invités, permet aux malades de se sentir un peu comme chez lui. Bonjour Sandrine Berthaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio A pour nous parler des accueillants familiaux, parce que vous accueillez à domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc vous êtes une accueillante familiale et vous êtes installée à Baillargues dans l'Hérault, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors chez vous, c'est simple, les accueillants, vous accueillez en famille et les pensionnaires se sentent un peu comme à la maison.
Oui, c'est la vie de famille en fait. Moi j'ai actuellement 3 personnes, puisque l'agrément va jusqu'à 3 personnes. Et qui ont bien sûr la pathologie d'Alzheimer, et toutes les trois à un degré différent. Voilà. Je voulais juste passer un petit message, remercier donc le soutien du CLIC. Vraiment, on travaille avec le CLIC de Castries, de Lunel, et ils sont formidables. Le conseil général de l'Hérault, tout particulièrement Mme Pouget et Mme Lalanne, qui s'occupent des familles d'accueil.
On va en parler, ça sur un plan administratif. Vous allez nous expliquer quelle a été votre démarche dès le départ. En fait, vous aviez travaillé dans le milieu, dans le social, c'est ça ?
Voilà,
et un jour, vous vous êtes dit, pourquoi pas accueillir à domicile ?
Oui, oui, oui. Bon, j'avais la possibilité parce que j'avais une grande maison. Et bon, après, c'est un peu l'aventure qui commence. Le premier agrément, voilà. Et puis, en fait, je pense que c'est une vocation dès le départ et... C'est plus qu'un métier, en fait. Hein.
C'est un métier, c'est l'envie d'aider. Alors, vous avez demandé votre agrément. Comment ça s'est passé ? Vous êtes allé voir des responsables de service au Conseil général en leur expliquant votre démarche, vos envies ?
Oui, tout à fait.
Donc, il faut obtenir un agrément.
Voilà. Après, une équipe se déplace au domicile. Donc, il y a des normes à respecter. Donc, se déplace et vérifie si toutes les normes y sont. Et on parle ensemble aussi. Et voilà, donc... Peut-être un mois et demi après, il y a une commission. Donc ça passe en commission et voilà, on a la réponse favorable ou non. Voilà, pour mon cas, bien sûr, ça a été favorable.
Ça a été favorable. Donc vous pouvez accueillir des personnes qui sont dépendantes. Vous êtes médicalisée ?
Tout à fait, entièrement médicalisée. On tourne avec une équipe d'infirmières qui ont fait toutes les formations Alzheimer récemment. On a des kinés à domicile. Tout se fait au domicile, il y a la coiffeuse qui se déplace, médecin, c'est une mini-structure en fait, tout simplement.
Mais vous êtes en famille également, vous vivez avec mari, enfant, donc tous participent en fait à cette vie d'accueillant.
Tout à fait, donc les enfants s'impliquent énormément, il y a un attachement évident des deux côtés, des personnes et les enfants pareil. Bon, on a aussi des animaux, donc ça compte beaucoup aussi parce que...
Bien sûr, la relation avec les animaux familiers, on en parlait tout à l'heure. Alors, que faites-vous chaque jour, Sandrine Berthaud ? Expliquez-nous un petit peu une journée type. Je crois que vous êtes aussi une adepte de l'aromathérapie, de la relaxation, des petits plus, en fait, que vous connaissez bien.
Voilà, donc, bon, en général, le matin, bien sûr, il y a les équipes d'infirmières, donc, en général, là, on fait un bon déjeuner copieux parce que c'est très important. La matinée se déroule, ça peut être, on va faire un petit peu de relaxation. Par exemple, j'ai une personne là qui épluche les légumes parce qu'elle adore ça. Après, chacun...
Mais à la pâte. Vous avez inventé également, Sandrine, une nouvelle forme de communication puisque vous avez réussi donc à transformer vos petits pensionnaires en stars du petit écran. Vous gardez le lien avec les familles sur Internet, tout simplement.
Ça fait par vidéo et ça leur plaît beaucoup. Mais en fait, la réaction au départ, c'est « Oh, je me vois !» Alors voilà, la personne va tout d'abord se regarder. Enfin, vraiment, elles ont adoré Internet, comme quoi il n'y a pas d'âge. Et on fait également ça entre familles d'accueil pendant les animations, l'après-midi. On se connecte et l'une voit chez l'autre ce qu'il se passe en temps réel par visio. Les personnes peuvent parler entre elles, donc elles communiquent. Nous, on essaie quand même toujours de garder un lien. On se voit régulièrement entre familles d'accueil. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent ce matin. Je les remercie. Voilà, et ça s'appelait beaucoup le visio. Là, vraiment, prochainement, il y aura un petit reportage, une petite vidéo dessus. Et c'est vrai que ça leur plaît énormément. Enfin, là, on essaie d'avancer, de trouver des solutions.
Des solutions innovantes, une façon de garder la communication, en fait, de privilégier la relation. Alors, c'est important pour vos pensionnaires, mais c'est aussi très, très important pour les familles qui, parfois, sont loin. Vous avez d'excellents retours, justement, sur ce système de visio.
Voilà, oui. Moi, j'ai une dame là qui a sa fille sur Paris, mais qui n'a pas encore vu. Mais j'ai une autre dame qui a un petit-fils qui vit assez loin, sur la Côte d'Azur. Donc, ils se sont branchés. Moi, j'ai la chance d'avoir une télé avec une prise derrière, derrière l'écran où on peut mettre la liaison avec l'ordinateur. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Elle se voit à la
sur
télé,
les personnes. Oui.
Voilà, donc ça, c'est, j'ai vraiment cette chance-là. Moi, j'ai fait un peu en fonction, et beaucoup de familles le font, voilà, on établit la pièce à vivre, puisqu'on vit tous ensemble, hein, donc on l'établit en fonction, c'est-à-dire que ce soit pratique et fonctionnel pour tout le monde. Voilà, donc je pensais que cet écran, c'était assez pratique, et voilà, on essaye d'avancer... Voilà, que dire d'autre.
Si vous voulez, internaute, jeter un coup d'œil sur le site, sur votre site, Sandrine, c'est www.famille.accueil.com et on voit effectivement en situation vos pensionnaires ou celles de d'autres familles, d'autres accueillantes qui sont en train de réaliser des activités diverses et variées. C'est vrai que c'est très gai, c'est très enjoué.
Ah oui, non, c'est clair. Et puis quand on chante, c'est pas triste, hein. Parce qu'on fait beaucoup aussi tout ce qui est musique, chansons, voilà. On a fait un petit cahier, on a eu la chance de pouvoir être invité par un médecin gériatre qui est le docteur Toiti à Montpellier. Et pour parler de l'aromathérapie, entre autres, on a rencontré, donc j'étais avec une de mes grands-mères là, on a rencontré donc l'équipe d'animation, ça s'est très bien passé. Et on avait fait nous-mêmes donc un cahier de chansons. Hein, donc, avec la musique qui l'accompagne. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ces animations-là, en fait. Hein, tout ce qui est gestuel, enfin, on fait plein de choses. Donc, c'est vrai que là, tout vous dire comme ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà.
Vous en parlez avec beaucoup de sincérité. Ce sont des choses qui font chaud au cœur. C'est vrai que c'est une expérience intéressante pour vous. C'est des structures qui devraient être développées.
L'accueil familial est très mal connu, peu connu même. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai dans un premier temps créé ce site, il y a à peu près plus de 2 ans de ça, pour faire un peu la mise en relation, parce que le Conseil général, c'est ce qu'il peut, et c'est vrai qu'ils ont un boulot énorme. Et voilà, donc, c'est-à-dire que les familles d'accueil qui ont des places de libre, en général, m'appellent et je leur mets l'annonce avec leur téléphone, gracieusement, sur le site. Et donc là, les gens peuvent aller sur le site et voir dans quelle ville, etc., combien de places libres en temps réel.
C'est important, oui, d'indiquer en temps réel les places disponibles chez vous et chez d'autres accueillants. On va rappeler votre site et vous restez avec nous, www.famille.accueil.com. Je crois que nous avons en ligne Madame Baréa, Christine Baréa, bonjour.
Bonjour.
Merci également à vous d'être avec nous, de nous rejoindre sur l'antenne de Radio A.info. Alors vous, Madame Baréa, vous êtes une des responsables de l'association Famille DAC. C'est une association qui permet de mettre en commun des compétences diverses. Vous regroupez celles et ceux qui souhaitent accueillir à domicile un malade type Alzheimer ou autre. Et vous vous occupez plus particulièrement des malades Alzheimer. Alors Christine Baréa, qu'est-ce que c'est un accueillant familial exactement?
Un accueillant familial est comme une personne qui a des
une prédisposition à aider autrui, parce que évidemment ça demande beaucoup de résignation et beaucoup
de générosité.
Oui, absolument, parce que sinon on irait faire un boulot où il y a moins de soucis. Mmh. Donc, parce que comme nous accueillons, enfin, personnellement, on accueille des personnes âgées, certaines sont atteintes de la pathologie d'Alzheimer ou pathologie apparentée. Donc, au quotidien, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes soucis, c'est-à-dire que les gens génèrent une angoisse qu'il faut apaiser, et puis leur donner encore un sens à leur vie, là, savoir là où ils sont pour les accompagner là où ils veulent aller, que ce soit physiquement ou mentalement.
Ça, c'est très très important, hein, de ne pas couper la relation, de garder cet aspect relationnel intact entre les familles, entre les accueillants. Et également, bien sûr, entre les pensionnaires, les malades. Alors, sur un plan, on va dire, purement administratif, imaginons une famille qui, aujourd'hui, a envie d'accueillir, quelles sont les démarches que l'on doit mettre en place ? À qui faut-il s'adresser, Madame Barrea ?
Alors, la première démarche, c'est se rapprocher du Conseil général, écrire une lettre au président du Conseil général de son département, en lui expliquant que nous désirons devenir famille d'accueil. Donc, suite à cette demande, un dossier est à remplir avec des critères sanitaires, c'est-à-dire une bonne santé pour l'accueillante familiale, des références sociales, qu'il n'y ait pas de problème au niveau juridique, problème au niveau alcoolisme, au niveau relationnel. Donc, tout ça est...
Il y a une enquête, j'imagine, qui est faite, bien sûr.
Psychologique, avec une psychologue du département. Donc, suite à cela, il faut à peu près trois mois, afin que toutes ces pièces soient réunies, les différentes visites du médecin, du conseil général visitent les lieux également, parce que c'est important, puisqu'il faut avoir des certaines normes, c'est-à-dire qu'il faut que les chambres aient une dimension minimum de 9 mètres carrés, les sanitaires à proximité. Il n'est pas obligé d'avoir des sanitaires dans la propre chambre, c'est sûr que si cela est fait, c'est encore mieux.
Bien sûr, bien sûr.
Plus d'aisance pour tout le monde. Et une vie, ce qui est préconisé, c'est surtout une vie familiale, c'est-à-dire avoir un lieu commun où toutes les générations se rencontrent, que ce soit les enfants de notre propre famille ou les familles naturelles qui viennent visiter leurs parents, qu'il y ait quand même une symbiose entre toutes ces générations.
Bien sûr,
donc c'est là, c'est comme son nom l'indique, c'est quand même un accueil familial.
Les c'est familial, voilà.
Les personnes ne sont pas dans leur propre chambre, à moins que leur état de santé le demande. Si leur état de santé le demande, une personne actuellement qui est là chez moi depuis 5 ans, elle est devenue grabataire. Bon, ça fait quand même 2 ans qu'elle est dans sa chambre allongée parce qu'elle ne peut pas se mettre en station assise.
C'est-à-dire que vous avez autour de vous, vous êtes médicalisé, vous avez autour de vous le personnel soignant qui vient à votre domicile plusieurs fois par jour pour aider, pour accompagner et pour les soins.
Bien sûr, bien sûr. Nous ne sommes pas seuls. C'est aussi un gage de garantie pour nos familles, sachant qu'il y a des personnels qualifiés paramédical qui est là chaque jour. Donc s'il y avait un souci quelconque, de suite, on alerte le médecin et qui réagit de suite, ce qui nous permet d'éviter l'isolement. Si on n'a pas ce personnel de santé, nous sommes quand même isolés.
Bien sûr, bien sûr.
Nous ne sommes pas des paramédicaux. Nous sommes des auxiliaires de vie, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Vous apportez un plus. Vous apportez un plus sur le plan relationnel. Mais vous êtes de toute façon bien entouré. Et ça, c'est ça qui est important. Vous aussi, au sein de l'association, vous pouvez aider ces familles qui ont envie d'accueillir.
Oui, j'ai de nombreux appels de toute la France. Puisque dans le site famidac.fr, nous avons plusieurs personnes qui répondent aux questions, que ce soit des personnes handicapées, des personnes à l'accueil thérapeutique, qui sont reliées à un hôpital, ou alors des accueils sociaux comme pour l'accueil de personnes âgées.
Nous avons également l'avantage d'avoir une antenne ici en Gironde qui est AFA 33, c'est-à-dire accueil famille d'accueil amical des familles d'accueil de Gironde.
AFA-33.fr.
Et là, c'est pareil, nous avons un système de mise à disposition des places vacantes dans notre association et nous faisons circuler l'information entre les familles d'accueil. Nous avons aussi l'avantage de nous retrouver entre nous pour des après-midi récréatives. Et comme disait ma collègue Sandrine de Montpellier, que je salue...
Et qui est en ligne encore, vous êtes toujours là, Sandrine Berthaud.
Oui, eh bien, j'ai eu l'occasion également de faire partager les emails avec ma pensionnaire et son petit-fils qui était aux États-Unis. Donc, comme quoi, il faut se mettre à la page et se mettre sur Internet. Et il y a énormément d'accueillants familiaux qui sont maintenant sur Internet et ça facilite énormément notre travail.
Et oui, ça facilite aussi le travail de Sandrine. Hein, vous nous l'expliquiez avec ce système de visio.
Oui, elle est très à la pointe.
Oui, tout à fait. On vous incite à aller voir son site. On vous redonnera.
C'est déjà fait, effectivement.
L'adresse, ouais, familleaccueil.com. Alors, c'est des structures, d'après vous, hein, Sandrine, comme Christine, vous pouvez me le confirmer, qui sont à développer, à privilégier dans l'intérêt des familles et du malade, bien sûr.
Oui, et toujours dans l'encadrement du conseil général, puisque là, c'est quand même une garantie de qualité, parce que les services sociaux sont là et nous aident et nous offrent également cette garantie de sérieux. Hein.
Mais c'est très contraignant quand même pour une famille qui accueille. On n'a pas parlé de tout cet aspect, j'allais dire le coût, tout simplement. Vous, en tant qu'accueillant familiaux, est-ce que, j'allais dire, vous ne faites pas ça bénévolement. Combien gagne un accueillant familiaux, tout simplement?
Alors, un accueillant familial ne gagne pas des milliers de cents. Hein. Et si on compte le nombre d'heures de présence responsable, puisque nous sommes responsables 24 heures sur 24 et tout au long de l'année. Si bien que si nous nous faisons remplacer, il faut que nous nous déchargions de notre partie de salaire.
Et là, vous pouvez vous arranger avec d'autres familles, par exemple?
Non, entre familles, nous avons chacun le nombre de personnes.
D'accord.
Nous pouvons nous réunir pour passer un moment en après-midi. Nous ne pouvons pas confier nos trois personnes à une personne qui a déjà trois personnes. Ça nous ferait six, ça serait illégal.
Ouais.
Mais par contre, nous devons absolument nous faire remplacer. Et pour cela, petit à petit, nous arrivons à acquérir certains droits sociaux, comme les congés payés, qui sont là depuis seulement 2002. Donc auparavant, nous avions seulement notre rémunération et nous n'avions pas de congés payés. Donc on ne pouvait pas se permettre de partir.
C'est un métier récent, hein, effectivement. On va l'aborder, ça, tout à l'heure, au niveau de la formation, etc. C'est vrai qu'il y a encore un petit peu un flou autour de ça. Et ça aussi, peut-être vous souhaiteriez que ça change, que les choses soient mises en place de façon peut-être un peu plus réglementée.
Voilà, nous aimerions être reconnus comme des travailleurs à part entière, c'est-à-dire être reconnus au code du travail. Et pouvoir ainsi bénéficier de certains avantages sociaux, parce que si nous nous arrêtons, nous ne pouvons pas bénéficier des ACEDIC, puisque nous ne cotisons pas. Nous sommes en fin de compte entre une profession libérale et une rémunération, disons, à titre, pas bénévole, mais presque. Vous voyez, ce n'est pas un salaire pur. Puisque nous n'avons pas de charge sociale sur les ACEDIC, nous avons la maladie, la vieillesse, la complémentaire, et voilà.
Et au niveau du salaire en tant que tel, hein, on l'évoquait il y a un instant, combien touche un accueillant?
Écoutez, j'ai des accueillants qui touchent en dessous du SMIC. Hein.
Ah oui?
Ah oui, absolument, absolument. Donc, nous souhaitons que notre accueil aille de 3, c'est vraiment le minimum si on veut tourner, avoir une bonne ambiance au niveau familial, si les locaux le supportent. 3 accueils familiales, c'est ce qu'il faut pour que nous ayons un minimum.
Un minimum, oui.
Ensuite, c'est sûr que si la loi nous permettait d'en avoir 4, ça serait encore mieux.
Ce serait peut-être l'ouvrage. Ça
tout dépend le contexte familial. Moi, je parle pour moi parce que je suis soutien familial, mais il est vrai que... peut-être pour une autre personne, son son salaire lui suffit. Hein. Si on est en couple, c'est différent.
Vous restez avec nous toutes les deux, Christine Barréa, Sandrine Berthaud. On va se retrouver dans un petit instant. On abordera le coût pour une famille, lorsqu'une famille place son papa, sa maman, quelqu'un de proche dans une de vos structures. Combien ça coûte? Et nous parlerons également de des aides possibles. Ça, Christine Barréa, je crois que vous allez pouvoir nous en dire plus dans un petit instant. Si vous avez des questions à poser à nos invités, www.radioa.info ou appelez le 0811 341 341 pour le prix d'une communication locale. À tout de suite.
Aidez les aidants, c'est tous les jours sur Radio A.info. Radio A.info.
Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un coup de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir. Toutes les sirènes de bateaux vont chanter sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand. Ou sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter sans fois la chanson de l'Eldorado. De l'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique.
Radio A.info.
Radio A. Radio A. Radio A.info. Pour vous aider. Vous écouter. Vous écouter. Vous informer sur la maladie d'Alzheimer. Radio
A.info. Radio A.info. Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Merci de rester avec nous sur Radio A.info. Vous nous écoutez sur internet www.radioa.info. Posez toutes vos questions sur notre site ou appelez également le 0811 341 341. Ce matin dans Aider les aidants, nous abordons le thème des familles d'accueil. Avec nous, Christine Barréa de Famidac. Vous êtes toujours là. Sandrine Berthaud également, vous êtes accueillante familiale dans l'Hérault à Bayargues. On abordait il y a quelques instants le problème du coût, parce que certes ça a un coût pour les familles qui souhaitent placer quelqu'un de proche chez vous, dans vos structures, combien ça coûte?
Alors, vous me posez la question, moi, oui, d'accord. Alors, concernant le coût, nous sommes des salariés de nos personnes accueillies. Donc, nous ne faisons pas de facture, nous ne sommes pas un établissement. Donc, nous avons une pension qui nous est due. Avec trois postes, c'est-à-dire un poste qui correspond à notre rémunération propre pour service rendu, qui est calculé sur le SMIC horaire, c'est-à-dire qu'il est fixé journellement, par jour, nous toucherons au minimum 20 euros par jour par personne.
Ça, c'est ce que devra verser, en fait, la famille.
Ça, c'est le brut. Hein. C'est-à-dire que le montant minimum est fixé par le Conseil général et d'une façon, nationale, à 2,5 SMIG horaire par jour.
Par jour, d'accord. C'est voilà. Le minimum.
Donc, ce qui fait en euros, donc 20,68 euros par jour. Donc, ça, et plus maintenant, donc nous avons 10% de plus de congés payés. Donc, ça fait 10% de plus. Et en cas de sujétion particulière, c'est-à-dire c'est une majoration qui est justifiée par la nécessité d'une disponibilité supplémentaire de la client liée à l'état de la personne.
D'accord, à son état de santé.
Voilà.
Selon s'il est dépendant ou pas. D'accord.
Ici, nous avons donc un sous-total brut soumis à cotisation, ce qu'on appelle la rémunération pour service rendu. Ce qui était, on pourrait penser à un salaire. Mais nous ne pouvons pas appeler ça un salaire puisque nous ne sommes pas reconnus au code du travail. C'est une rémunération.
Alors en moyenne, ça coûte combien concrètement pour une famille?
Ensuite, nous avons, en deuxième poste, les frais courants de la personne accueillie. C'est-à-dire que pour un hébergement complet, y compris l'entretien courant comme les denrées alimentaires, sur lesquelles il n'y a pas de charge sociale, on ne va pas payer des charges sociales, vous voyez, les produits d'entretien, d'hygiène, d'électricité, le chauffage, les frais de transport de proximité ayant un caractère occasionnel, tout cela, ça fait partie des frais d'entretien. Il y a également une somme qui est fixée à deux minimums garantis par jour, soit par mois environ 193 euros.
Pour ce poste précisément,
voilà, pour ce poste,
oui.
Hein. Ensuite, en troisième poste, nous avons l'indemnité représentative de mise à disposition de la pièce réservée pour l'accueil, c'est-à-dire pour sa chambre, et son montant est en fonction de la surface et de l'état des locaux. Et ce poste ouvre droit aux prestations de la CAF. C'est-à-dire que la personne a l'allocation logement du fait qu'il y a des conventions entre la CAF et l'accueil familial.
Alors, si on fait le total, Madame Barréa, puisque vous nous avez détaillé tous les postes,
selon la dépendance de la personne, selon également le confort de la pièce, parce que je vous ai dit, ça pouvait être une pièce pure et simple de 9 mètres carrés avec les sanitaires dans le couloir, ou alors une pièce complète, il y a des personnes accueillantes qui ont quand même des pièces de plus de 20 mètres carrés avec un sanitaire personnel. Donc là, c'est laissé à l'appréciation avec le conseil général, un minimum et un maximum. Et donc un minimum, on va actuellement brut pour les familles d'accueil. Actuellement, selon les départements, il va y avoir des différences.
En fonction des aides, bien sûr.
Exactement.
Oui.
Donc, de 1500 euros à 2000 euros.
Entre 1500 et 2000.
Actuellement, c'est pratique. Je donne une fourchette de prix. Il y en a qui sont peut-être en dessous, selon des départements c'est beaucoup. Disons, il y a des barèmes. Et puis,
c'est ce qu'il faut compter, entre 1500 et 2000 euros
voilà.
Pour pouvoir placer dans une famille donc un malade qui vous est proche, quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille. On peut vous contacter sur le site pour obtenir tous ces détails, j'allais dire, pratiques.
Absolument, vous pouvez donc nous contacter sur le site famidac.net.
.fr
et également sur afa-33.fr.
D'accord.
Et également dans chaque département, il y a des associations d'accueillants familiaux.
Sandrine Berthaud, merci aussi d'être restée avec nous.
Merci à vous.
On peut vous contacter également sur www.famille.com. C'est intéressant cette petite information de nous indiquer en temps réel les places disponibles également chez vous.
Sur mon site, c'est que les rôles.
Que les rôles, tout à fait. Mais il y a déjà pas mal de familles d'accueil dans votre secteur autour de Bayargues.
Oui.
Merci à vous, merci de rester bien sûr sur Radio A, www.radioa.info, 0811 341 341. On va se retrouver dans un instant, nous verrons comment aborder la formation des accueillants, un métier en devenir, le témoignage également d'une jeune femme qui a pu bénéficier de cet accueil familial pour sa maman.
Radio A.info.
Alors je pointe ou je tire?
Tu es sûr que tu vas y arriver? Ah, j'ai peur que tes articulations te jouent des tours.
Manque-toi, tu vas voir, je vais te le faire, le carreau, moi.
Oh, coquine des sorts, c'est magnifique.
Eh, logique, je prends Phytalgique. C'est fantastique pour mes articulations.
Ouh, je ferais bien d'en prendre, moi aussi, du Phytalgique.
Pour vos articulations, ayez le déclic Phytalgique, complément alimentaire, en vente en pharmacie.
Une 1664 fraîche et dorée, une fine bulle qui pétille, Un vers gravé 1664. Et maintenant, laissons s'exprimer la bière.
Le grand numéro.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Ça dérange, ça gêne, ça énerve. Qui en parle ? Ne cherchez pas, c'est François. François, la vérité au quotidien.
François, en vente tous les jours chez votre marchand de journaux.
Bonjour, c'est André Dusselier. J'aimerais vous dire qu'il est temps de prendre votre santé à cœur. Avec les trois règles d'or, fruits d'or, marcher une demi-heure par jour, manger sain et équilibré avec la margarine fruits d'or, et enfin prendre la vie côté cœur. Ça a l'air simple, non ? Eh bien, ça l'est. Les trois règles d'or, fruits d'or, ça marche.
Pour votre santé, bougez plus.
Aidez les aidants. Aidez les aidants.
Radio A. Radio A.info.
Aidez les aidants. C'est tous les jours sur Radio A.info. Radio A.info.
Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Restons en ligne, www.radioa.info. Gérald Robert fait partie des nombreux chroniqueurs de Radio A chaque jour. Ils viennent vous parler gastronomie, littérature, sorties, cinéma. Gérald Robert nous racontera toutes les semaines la vie d'un personnage célèbre touché par la maladie d'Alzheimer. Ce matin, l'ancien président américain Ronald Reagan. Bonjour Gérald.
Bonjour, oui, on ne connaîtra qu'en novembre le nom du 44e président des États-Unis. Il sera peut-être métis, ce sera peut-être aussi une femme, mais sera-t-il aussi populaire que le fut en son temps un John Kennedy ou plus près de nous Ronald Reagan ? Ronald Reagan, rien ne prédestinait cet acteur de série B à devenir un jour président des États-Unis. Il naît le 6 février 1911 à Tampico, en Illinois. Ses parents sont d'origine irlandaise. Leur niveau d'éducation ne dépasse pas l'école élémentaire. Son père vend des chaussures, c'est un homme sportif qui est en même temps porté sur la bouteille. Sa mère est très pratiquante, c'est elle qui va initier le jeune Ronald aux arts de la scène. Le jeune Reagan n'est pas un étudiant exceptionnel, mais c'est un grand sportif. Il pratique le foot, mais aussi la natation. Il travaillera d'ailleurs pendant l'été comme nageur-sauveteur. Alors selon la légende, il aurait sauvé à cette époque pas moins de 77 vies. Alors, c'est une information que, évidemment, personne n'a jamais pu vérifier. Il fait du théâtre également. Il joue dans les pièces montées au collège. Il est assez populaire déjà parmi ses condisciples. Et cette popularité lui permet d'être élu président du Sénat étudiant au cours de sa dernière année au collège. Lors d'une grève étudiante, il prononce même un discours qui lui permettra de rallier les étudiants à la cause. Plus tard, Reagan expliquera que c'est à ce moment de sa vie qu'il a appris à conquérir une audience. Ses talents d'orateur, on le surnommera d'ailleurs le grand communicateur, joueront un très grand rôle dans les succès qui vont jalonner sa carrière. Son diplôme de sociologie et d'économie en poche, il s'oriente en 1932 vers le journalisme. Le voilà commentateur sportif à la radio. 5 ans plus tard, une audition lui permet de décrocher un contrat à Hollywood. Son physique avantageux et sa belle voix, on l'a souvent comparé à John Wayne, vont faire de lui un acteur de second rôle très recherché. Pendant environ 2 décennies, il va jouer dans 53 films aux côtés de très grandes vedettes de l'époque, comme par exemple Humphrey Bogart ou Errol Flynn. Il apparaîtra pour la dernière fois sur un grand écran en 1964. Le grand communicateur met un terme à sa carrière d'acteur pour se consacrer exclusivement à la politique. Gouverneur de Californie durant 8 ans, il est élu en 1980 président des États-Unis, une fonction qu'il occupe durant 9 ans et au cours de laquelle il aura fortement contribué à la relance économique de son pays avec des recettes ultra-libérales. Mais c'est en négociant un accord de désarmement nucléaire avec l'URSS, l'Empire du Mal comme il est qualifié, qu'il entrera définitivement dans l'histoire. Incarnation du rêve américain, Reagan déclare en 1994 être atteint de la maladie d'Alzheimer. Ses apparitions publiques se feront alors de plus en plus discrètes. Il décède à l'âge de 93 ans, le 5 juin 2004, après 10 ans de lutte contre la maladie.
Merci Gérald Robert. Retrouvez cette chronique sur www.radioa.info.
Radio A. Radio A. Radioa.info pour parler autrement de la maladie d'Alzheimer.
though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, just let it be.
Radio A.info. Radio A.info.
Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Aide à part entière aux familles. Aujourd'hui, les familles d'accueil. Posez toutes vos questions sur notre site ou par téléphone au 0811 341 341. Le coût d'une communication locale depuis un poste fixe. Également vos questions sur www.radioa.info. Vous pouvez intervenir en direct sur notre antenne si vous le souhaitez. Posez vos questions à nos spécialistes, à nos invités ou bien sûr partagez vos expériences avec d'autres internautes. Nous sommes en ligne avec Christelle Bardet. Bonjour. Christelle Bardet n'est pas là pour le moment, avec Gisèle Tucou.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présente ce matin sur l'antenne de Radio A. Vous êtes dans le Béarn.
Oui, tout à fait. Nous sommes sur Pau.
Alors, vous êtes au CIAPA. Le CIAPA, c'est le Comité départemental d'action et d'information en faveur des personnes âgées.
Voilà.
Vous, de votre côté, vous êtes adossée à l'association Alzheimer pour le Béarn et nous allons parler avec vous de la formation des accueillants.
Tout à fait.
Donc, vous, ce que vous proposez, en fait, c'est de former donc ces personnes qui souhaitent accueillir des malades à leur domicile. Alors, ça se passe de quelle façon, Madame Tucou?
Eh bien, voilà, nous avions commencé la formation en 1989 parce qu'il n'y avait pas de formation pour les accueillants familiaux. Et donc, le Conseil général nous avait chargé de faire des formations pour eux. Donc, nous avons fait des formations en demi-journée parce que, bien sûr, elles ne peuvent pas toujours partir trop longtemps à cause des patients qu'elles accueillent à leur domicile. Donc, ça se passait un après-midi par semaine.
Alors, comment forme-t-on les accueillants familiaux? Quels sont les modules que vous proposez?
Alors, les modules, nous avions la diététique, les aspects psychologiques de la personne âgée, Nous avions des modules sur la maladie d'Alzheimer. Nous avions des modules sur des pathologies aussi, qu'elles avaient des soucis. Et puis, nous avions aussi l'explication des contrats de travail qu'elles ont avec le conseil général.
Alors, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner concrètement, que vous leur donnez lors des formations qui sont dispensées par des spécialistes, hein, rappelons-le.
Tout à fait. Nous avions donc des psychologues qui sont des diététiciennes. Et nous avions aussi, pour la mobilisation de la personne âgée, nous avions une personne qui était diplômée pour les former sur les gestes et portures, quoi, qu'il faut quand nous devons les déplacer du lit au fauteuil, etc.
Concrètement, voilà. Les conseils que vous leur donnez, vous avez des illustrations peut-être ?
Ben, tous les conseils, c'est-à-dire leur apporter aussi des petits conseils sur l'animation au domicile. Par exemple, essayer de les faire participer au repas des familles, à la préparation des repas, à l'épluchage des légumes, ou autrement à la façon de faire les confitures, etc. aussi.
Vous avez beaucoup de demandes de la part des accueillants?
Ben, les accueillants familiaux, donc c'est vrai, nous actuellement depuis plusieurs années, nous faisons les formations simplement sur l'appel d'offres que lance le Conseil général et nous répondons donc à cet appel d'offres.
Puisque vous...
Mais nous avons aussi à notre siège, nous avons la permission de faire des réunions des familles d'accueil. Il y a une présidente dans le Béarn et qui fait des réunions dans nos locaux.
Puisque vous travaillez avec l'association Alzheimer, donc quelle est la situation, on va dire, sur le terrain, en tant que telle, des familles d'accueil? Est-ce qu'il y en a assez pour votre département, ou est-ce que vous avez chez vous de nombreuses familles qui vous contactent et qui cherchent une place pour leurs parents, et malheureusement on ne peut pas toujours répondre?
Ben, c'est-à-dire que nous proposons, oui, des familles d'accueil pour accueillir, les accueillants familiaux. Nous proposons aux familles de se renseigner auprès du Conseil général pour voir s'il y a des places disponibles pour leurs patients Alzheimer, ça c'est sûr, oui.
Il y a beaucoup de demandes, par contre, dans ce sens.
Il y a des demandes, oui, parce que nous avons les établissements qui sont saturés un peu et qui ont des listes d'attente, donc les familles cherchent un peu partout, quoi.
Vous aussi, vous pensez que c'est une solution intéressante?
Ah ben oui, là, c'est une solution intéressante et il faudrait le développer davantage parce que sur notre département, elles ne sont qu'une 140 familles d'accueillants familiaux, donc c'est vrai, c'est pas beaucoup, quoi.
140 uniquement réservées à la pathologie Alzheimer ou...
Non, sur toutes les pathologies. Donc, ce sont des accueillants familiaux qui sont répartis sur notre département, tant en Béarn qu'en Pays Basque.
Sur votre site également, vous proposez des actions innovantes, des formations, par exemple, récemment sur le thème. Madame Ticou, Gisèle Ticou, vous êtes toujours en ligne avec nous.
Oui.
Je disais, sur votre site, vous proposez des formations, notamment sur le thème de la maltraitance. C'est un thème récurrent.
Oui, parce
malheureusement.
Que on fait une sensibilisation à la maltraitance en cette formation, parce que c'est vrai que toute maltraitance, soit verbale ou soit aussi physique, peut intervenir dans tous les établissements ou même dans les accueillants familiaux.
On renvoie sur votre site, Gisèle Ticou, www.ciapa.ca.
Oui.
.com,
voilà.
Pour le Béarn. Merci d'avoir répondu présente ce matin, répondu à nos questions sur www.radioa.info. On peut vous retrouver, bien sûr, sur toutes nos émissions, sur nos émissions à la demande que vous pouvez télécharger 24 heures sur 24. Si vous aussi, ce matin, vous voulez nous téléphoner pour poser vos questions au 0811 341 341 pour le coût d'une communication locale depuis un poste fixe, n'hésitez pas, aidez les aidants. Encore pendant une dizaine de minutes. Avec nous en ligne, Christelle Bardet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci également d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Sur Radio A, vous avez voulu témoigner pour nous parler de votre expérience, de celle de votre maman, puisque vous êtes une jeune femme dynamique d'une trentaine d'années.
Oui, j'ai 32 ans et je prends en charge ma maman depuis 5 ans, qui a été diagnostiquée très, très précocement, mais elle reste quand même très jeune, a été diagnostiquée à l'âge de 57 ans. Donc la situation s'étant quand même dégradée rapidement et face à la pénurie d'institutions et de maisons spécialisées dans la prise en charge, notamment de patients jeunes, en surfant un petit peu sur Internet et en tâchant de me renseigner, j'ai connu cette formule de la famille d'accueil. Et en fait, ça se révèle effectivement une bonne alternative au placement en institution, jusqu'à sa limite, bien entendu, parce qu'une famille d'accueil va offrir plein d'avantages, forcément, mais après, il y a une limite de la famille d'accueil qui est réelle.
Vous étiez intéressé plutôt par ce système, j'allais dire, familial. Vous ne souhaitiez absolument pas placer votre maman dans un établissement spécialisé.
Ben, tout à fait. En plus, l'expérience des maisons, celles que j'ai visitées, etc., c'est vraiment de la gériatrie. Donc c'est assez difficile de placer sa maman qui est encore valide, qui est encore pleine de vie, qui a encore plein de choses à donner, plein de choses à dire, de la mettre... Alors pour moi, c'est le cliché du mouroir qu'on a régulièrement quand on va dans les maisons de retraite, malheureusement. Donc la famille d'accueil, c'est vrai que lui permet de recréer un foyer, recréer une vie sociale, familiale, puisqu'ils sont ensemble 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les repas sont partagés ensemble, il y a des activités qui sont faites, et puis il y a une vie de famille qui se construit. Il y a vraiment une réelle vie de famille qui se construit. Alors après, c'est plus difficile pour l'aidant aussi d'y trouver sa place, parce qu'on ne fait pas partie de cette famille-là.
C'est une nouvelle famille. En fait, votre maman, vous avez l'impression qu'elle s'est réinventée une famille, en quelque sorte ?
Elle s'est réinventée une famille, oui, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a des rituels, parce qu'il y a des habitudes qui sont mises en place. Donc, on va dire oui. Maintenant, la famille de cœur reste quand même celle du sang.
Bien sûr.
Même s'il y a des liens très forts qui se créent entre les patients et avec la famille.
Au quotidien, j'allais dire, comment le vit-elle, votre maman ? Elle est ravie ?
Alors, plutôt assez bien, parce qu'elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle et qui est extrêmement rassurant. Puis, il n'y a pas du tout le côté médicalisé que peut avoir une maison où il va y avoir des aides-soignantes, des infirmières, des choses comme ça. Ça reste, on va dire, en petit comité, puis ça reste intime comme rapport. La toilette, les repas, les choses comme ça, ça reste dans un petit foyer, dans une maison. Donc elle s'y sent plutôt bien. Parfois, le temps lui paraît long parce qu'elle se rend plus trop compte où elle est, pourquoi elle est là. Maintenant, elle s'y sent bien. Voilà. Je sens pas d'angoisse particulière.
Et vous, c'est pareil de votre côté. Vous le vivez, le plus sereinement possible.
Oui, je le vis sereinement. En revanche, la situation se dégradant quand même, oui. Je ne vous cache pas que la famille a sa limite aussi, parce que dans une maison, il va y avoir une équipe qui va prendre en charge ses patients. C'est une pathologie qui est extrêmement lourde à prendre en charge. Et c'est vrai que pour une famille, donc en général, il y a une personne dans la famille qui s'occupe des patients. Beaucoup, c'est quand même très très lourd, entre les toilettes, préparer les repas, faire la stimulation, leur trouver des activités, faire le repas, le ménage, faire tourner la maison. Elle a 3 patients plus une famille, donc sur une personne, voilà, maintenant, je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de prise en charge parfaite. Ça n'existe pas.
Vous me disiez, Christelle, au début de notre entretien, que c'est un système qui a ses limites.
Oui, elle a ses limites justement parce que quand la dépendance devient, alors pas en termes de toilettes ou d'aider à manger ou etc., mais cette pathologie en fait requiert quand même une énergie hors du commun, surtout pour des patients qui sont valides et qui sont pleins de vie comme ma maman où elle bouge beaucoup, où elle sollicite beaucoup, c'est extrêmement chronophage et c'est très épuisant.
D'où l'importance aussi des formations, on en parlait.
D'où l'importance des formations et des relais. Nous, on essaie de la prendre quand même une fois tous les mois et demi, 2 mois pendant un week-end pour soulager la famille d'accueil. Je vous cache pas que moi, à la fin du week-end, je suis exsangue, je suis épuisée. Elle est arrivée à m'épuiser en un week-end. Donc, j'imagine ce que doit... Après, il y a un rapport différent. Moi, c'est ma maman, donc j'ai peut-être pas la même implication, on n'a pas le même degré de relation. Mais avec 3 patients, c'est admirable le travail qu'elles font. Alors évidemment qu'elles ont leurs limites, mais c'est le système qui est fait comme ça. C'est ni afférent à la personnalité de l'accueillant ou... Euh, voilà, comme je le disais, il y a vraiment pas de prise en charge parfaite. Et même en maison où il y a un coût qui est quand même extrêmement important, on n'aura pas la prise en charge parfaite non plus.
Alors voilà. Le coût, justement, on l'évoque, ça vous coûte combien?
Alors, ça nous coûte, le Conseil général, en fait, il y a une déclaration qui est faite directement aux salariés, enfin donc à la famille d'accueil, elle doit toucher 1 500 euros et il y a à peu près 300 euros de charges. Donc 1 800 euros financièrement, parce que c'est un aspect de la prise en charge qui est extrêmement important, c'est beaucoup plus intéressant qu'une maison. Beaucoup plus intéressant qu'une
qu'un établissement spécialisé, vous voulez dire.
Ah oui. Mm-hmm. Où là, on passe autour de 3 à 3 500 euros.
Ça peut aller effectivement jusqu'à ces sommes qui semblent astronomiques, oui.
Oui, mais qui le sont. Hein. C'est, alors, quand on analyse très froidement les choses, et il faut avoir il faut prendre ce recul pour arriver à organiser une prise en charge la plus adaptée possible. La famille d'accueil, en plus du bénéfice moral, de fait de ne pas être placé vraiment en institution, il y a un avantage financier qui est indéniable. Voilà. Mais pour aller jusqu'à un certain degré de dépendance, une fois que...
Après,
c'est l'institution. Moi, je suis dans la recherche maintenant. Je sais que l'accueil, on s'est mis d'accord parce que la famille d'accueil a eu l'honnêteté aussi de reconnaître ses limites. Donc on s'est mis un temps, on s'est laissé 6 mois pour trouver une autre solution. On savait de toute façon que c'était une solution, c'était une alternative et que c'était une situation qui serait temporaire.
Donc là, vous êtes en recherche d'institutions
spécialisées. Là, je suis en recherche d'institutions, tout à fait. Et donc les délais sont quand même importants. Voilà, après, ce que j'ai à ajouter aussi, je, par rapport aux limites du système, je trouve très sincèrement que les familles d'accueil ne sont pas assez accompagnées, très clairement. Au Conseil général.
Au niveau de la formation,
au niveau de l'accompagnement, au niveau des bilans, je pense que quand même il devrait y avoir peut-être des groupes de parole, des rencontres pour expliquer les difficultés, pour échanger.
Qu'ils se sentent un peu moins seuls.
Exactement. Mm-hmm. Je pense que ce sont des gens qui sont quand même assez, assez dépourvus. Quand il y a un placement dans la petite enfance qui est effectué, la personne du Conseil général va aller faire des bilans, demander comment ça se passe, éventuellement faire intervenir un psychologue. Là, alors c'est peut-être que mon expérience personnelle. Hein,
ce sont des structures quand même relativement récentes, Christelle, et c'est vrai qu'il faut, que ça chemine, il faut
tout
que ça se mette en place. Et c'est aussi pour ça que vous militez au sein d'Alzheimer Rhône,
tout à fait.
Si on peut utiliser le terme militer, pour que les choses évoluent, pour que ça bouge dans ce sens-là.
Tout à fait, mais je crois vraiment que c'est une solution qui reste à développer. Il y a très peu de familles, il y a très peu de places. Enfin, moi, j'ai été vraiment obligée de batailler ferme pour trouver celle-là. Et vraiment, heureusement que j'ai mis au service de cette solution-là toute mon énergie pour la trouver et pour la mettre en place. Mais le combat est difficile et vraiment pour avoir des places et l'attente peut être très longue pour avoir une place en famille d'accueil. Vraiment. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de le système est méconnu en plus.
Tout à fait, pas encore assez. C'est aussi notre rôle, nous, Radio A, d'en parler. De vous faire parler, de vous faire intervenir, de pouvoir échanger entre vous vos expériences, de vous donner des conseils que vous retrouvez également sur notre site, bien sûr. Donc il faut continuer, d'après vous, j'allais dire, le combat pour davantage de familles d'accueil.
Davantage de familles d'accueil, c'est une formidable alternative à l'institution. Voilà, vraiment, il faut le prendre comme ça. Après, ça va dépendre des patients aussi, parce que la limite de la prise en charge dépendra aussi du degré d'évolution de la pathologie chez le patient. Mais je crois vraiment qu'il faut, on a réussi à trouver un maillon supplémentaire dans la chaîne de la prise en charge avant le placement. Et c'est extrêmement important.
À développer.
Voilà.
Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines émissions sur radioa.info. Merci beaucoup, Christelle Barbier.
Je vous en prie.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
À très bientôt.